podcastfrançaisfacile.com.
Qu'est-ce que j'ai ? Est-ce du poison ? Moi aussi ? Oh ! J'ai peur, j'ai peur !
Le bureau se trouvait à portée de sa main. Il saisit un crayon, approcha un bloc-notes et commença à griffonner des mots. Mais il balbutia.
Mais non, pas la peine, puisque le préfet va lire ma lettre. Qu'est-ce que j'ai donc ? Oh, j'ai peur.
D'un coup, il se dressa sur ses jambes et articula.
Monsieur le secrétaire, il faut que... C'est pour cette nuit. Rien au monde n'empêchera...
À petits pas, comme un automate, tendu par un effort de toute sa volonté, il avança vers la porte du cabinet. Mais, en route, il vacilla et dut s'asseoir une seconde fois. Une terreur folle le secoua, et il poussa des cris si faibles, hélas, qu'on ne pouvait l'entendre. Il s'en rendit compte, et du regard, chercha une sonnette, un timbre. Mais il n'y voyait plus. Un voile d'ombre semblait peser sur ses yeux. Alors il tomba à genoux, rampa jusqu'au mur, battant l'air d'une main comme un aveugle, et finit par toucher des boiseries. C'était le mur de séparation. Il le longea. Malheureusement, son cerveau, confus, ne lui présentait plus qu'une image trompeuse de la pièce. De sorte qu'au lieu de tourner vers la gauche, comme il l'eût dû, il suivit le mur à droite, derrière un paravent, qui masquait une petite porte. Sa main ayant rencontré la poignée de cette porte, il réussit à ouvrir. Il balbutia
« Au secours, au secours !»
et s'abattit dans une sorte de réduit qui servait de toilette au préfet de police.
« Cette nuit, » gémissait-il, croyant qu'on l'entendait et qu'il se trouvait dans le cabinet du secrétaire, « cette nuit, le coup est pour cette nuit, vous verrez, la marque des dents, quelle horreur, comme je souffre. Au secours, c'est le poison, sauvez-moi !»
La voix s'éteignit. Il dit plusieurs fois, comme dans un cauchemar,
« Les dents blanches, elles se referment. »
Puis la voix s'affaiblit encore. Des sons indistincts sortirent de ses lèvres blêmes. Sa bouche parut mâchée dans le vide, comme celle de certains vieillards qui ruminent interminablement. Sa tête s'inclina peu à peu sur sa poitrine. Il poussa deux ou trois soupirs, fut secoué d'un grand frisson et ne bougea plus. Et le râle de l'agonie commença très bas, d'un rythme égal, avec des interruptions où un effort suprême de l'instinct semblait ranimer le souffle vacillant de l'esprit et suscité dans les yeux éteints comme des lueurs de conscience. À 5h10, le préfet de police entrait dans son cabinet de travail. Monsieur Desmalions, qui occupait son poste depuis quelques années avec une autorité à laquelle tout le monde rendait hommage, était un homme de 50 ans, lourd d'aspect mais de figure intelligente, et fine. Sa mise, veston et pantalon gris, guêtre blanche, cravate flottante, n'avait rien d'une mise de fonctionnaire. Les manières étaient dégagées, simples, pleines de bonhomie et de rondeur. Ayant sonné, il fut aussitôt rejoint par son secrétaire, auquel il demanda : « Les personnes que j'ai convoquées sont ici ? Oui, monsieur le préfet, et j'ai donné l'ordre qu'on les fît attendre dans des pièces différentes.
Oh, il n'y avait pas d'inconvénient à ce qu'elles puissent communiquer entre elles.
Cependant, cela vaut mieux. J'espère que l'ambassadeur des États-Unis ne s'est pas dérangé lui-même.
Non, monsieur le préfet.
Vous avez les cartes de ces messieurs?
Voici.
Le préfet de police prit les 5 cartes qu'on lui tendait et lut. Archibald Bright, premier secrétaire de l'ambassade des États-Unis. Maître Lepertuis, notaire. Juan Caceres, attaché à la légation du Pérou. Le commandant comte d'Astrignac, en retraite. La 5e carte portait simplement un nom, sans adresse ni autre désignation. Don Luis Perena.
J'ai bien envie de le voir, celui-là, fit M. Desmalions. Il m'intéresse diablement.
Vous avez lu le rapport de la Légion étrangère?
Oui, monsieur le préfet, et j'avoue que moi aussi, ce monsieur m'intrigue.
N'est-ce pas?
Quel courage! Une sorte de fou héroïque et vraiment prodigieux.
Et puis, ce surnom d'Arsène Lupin, que ses camarades lui avaient donné tellement il les dominait, et les stupéfiait.
Il y a combien de temps qu'Arsène Lupin est mort?
2 ans avant la guerre, monsieur le préfet. On a retrouvé son cadavre et celui de Madame Kesselbach sous les décombres d'un petit chalet incendié non loin de la frontière du Luxembourg. L'enquête a prouvé qu'il avait étranglé cette monstrueuse Madame Kesselbach, dont les crimes furent découverts par la suite, et qu'il s'était pendu après avoir mis le feu au chalet.
« C'est bien la fin que méritait ce damné personnage !» dit M. Desmalions.
Et j'avoue que pour ma part, je préfère de beaucoup n'avoir pas à le combattre. Voyons, où en sommes-nous? Le dossier de l'héritage Mormington est prêt?
Sur votre bureau, monsieur le préfet.
Bien. Mais j'oubliais, l'inspecteur Véraud est-il arrivé?
Oui, monsieur le préfet.
Il doit être à l'infirmerie, en train de se réconforter.
Qu'est-ce qu'il avait donc?
Il m'a paru dans un drôle d'état. Assez malade.
Comment?
Expliquez-moi donc.
Le secrétaire raconta l'entrevue qu'il avait eue avec l'inspecteur Véraud.
Et vous dites qu'il m'a laissé une lettre? Fit M. Desmalions d'un air soucieux.
Où est-elle?
Dans le dossier, monsieur le préfet.
Bizarre. Tout cela est bizarre. Véraud est un inspecteur de premier ordre, d'un esprit très rassis et, s'il s'inquiète, ce n'est pas à la légère. Ayez donc l'obligeance de me l'amener.
Pendant ce temps, je vais prendre connaissance du courrier.
Le secrétaire s'en alla rapidement. Quand il revint, 5 minutes plus tard, il annonça, d'un air surpris, qu'il n'avait pas trouvé l'inspecteur Véraud. Et ce qu'il y a de plus curieux, monsieur le préfet, c'est que l'huissier, qu'il avait vu sortir d'ici, l'a vu rentrer presque aussitôt et qu'il ne l'a pas vu sortir une seconde fois.
Peut-être n'aura-t-il fait que traverser cette pièce pour passer chez vous.
Chez moi, monsieur le préfet, je n'ai pas bougé de chez moi.
Alors c'est incompréhensible.
Incompréhensible, à moins d'admettre que l'huissier ait eu un moment d'inattention, puisque Véraud n'est ni ici, ni à côté.
Évidemment, sans doute aura-t-il été prendre l'air, et va-t-il revenir d'un instant à l'autre. Je n'ai d'ailleurs pas besoin de lui dès le début.
Le préfet regarda sa montre. 5h10.
Veuillez dire à l'huissier qu'il introduise ces messieurs.
Ah, cependant.
Monsieur Desmalions hésita. En feuilletant le dossier, il avait trouvé la lettre de Véraud. C'était une grande enveloppe de commerce jaune, au coin de laquelle se trouvait l'inscription « Café du Pont-Neuf ».
Le secrétaire insinua.
« Étant donné l'absence de Véraud et les paroles qu'il m'a dites, je crois urgent, monsieur le préfet, que vous preniez connaissance de cette lettre. »
Monsieur Desmalions réfléchit.
« Oui, peut-être avez-vous raison. »
Puis, se décidant, il mit un stylet dans le haut de l'enveloppe et coupa vivement. Un cri lui échappa. « Ah non, celle-là est raide. Qu'est-ce qu'il y a donc, monsieur le préfet ?»« Ce qu'il y a ? Tenez, une feuille de papier blanc. Voilà tout ce que contient l'enveloppe. » « Impossible, regardez, une simple feuille pliée en quatre, pas un mot dessus. » Pourtant, Véro m'a dit, en propres termes, qu'il avait mis là-dedans tout ce qu'il savait de l'affaire. Il vous l'a dit, mais vous voyez bien, vraiment, si je ne connaissais pas l'inspecteur Véro, je croirais à une plaisanterie. Une distraction, monsieur le préfet, tout au plus. Certes. Une distraction, mais qui m'étonne de sa part. On n'a pas de distraction quand il s'agit de la vie de deux personnes. Car il vous a bien averti qu'un double assassinat était combiné pour cette nuit. Oui, monsieur le préfet, pour cette nuit. Et dans des conditions particulièrement effrayantes. Diaboliques, m'a-t-il dit. Monsieur Desmalions se promenait à travers la pièce, les mains au dos. Il s'arrêta devant une petite table. « Qu'est-ce que c'est que ce paquet à mon adresse ?»« Monsieur le préfet de police. »« À ouvrir en cas d'accident. »« En effet, dit le secrétaire, je n'y pensais pas. C'est encore de l'inspecteur Véro, une chose importante selon lui, et qui sert de complément à l'explication au contenu de la lettre. »« Ma foi, dit monsieur Desmalions, qui ne put s'empêcher de sourire, la lettre en a besoin d'explication. » Et quoi qu'il ne soit pas question d'accident, je n'hésite pas. Tout en parlant, il avait coupé une ficelle et découvert, sous le papier qui l'enveloppait, une boîte, une petite boîte en carton, comme les pharmaciens en emploient. Mais salie, celle-là, abîmée par l'usage qu'on en avait fait. Il souleva le couvercle. Dans le carton, il y avait des feuilles ouates, assez malpropres également, et au milieu de ces feuilles, une demi-tablette de chocolat.